7h10 sur RTS1. Tribu, Julien Magnolet.
Le désir amoureux occupe une place très importante dans nos vies. Les artistes ne s'y sont pas trompés. L'amour est au cœur de très nombreuses productions culturelles, livres, films ou encore peintures. Il en est pourtant qui se montrent moins enthousiastes, ce sont les philosophes. Pour une partie d'entre eux, le désir amoureux est au mieux une illusion, au pire une promesse de souffrance. Alors pourquoi ce désamour de l'amour? Le désir amoureux est-il l'indispensable épice de notre existence, voire même carrément ce qui lui donne sens, ou est-il une garantie de douleur? Bonjour Marianne Chaillon.
Bonjour Julien.
Vous enseignez la philosophie dans un lycée à Marseille. Vous avez écrit plusieurs ouvrages faisant le lien entre la culture populaire et la philosophie. Et votre dernier livre s'appelle « À la folie, passionnément ». C'est paru aux éditions Équateur. Alors vous l'écrivez, hein, Marianne Chaillon, « L'amour a beau s'inscrire dans le nom même de philosophie hein, ». La plupart des philosophes nous recommandent de nous méfier de lui. Pourquoi cette réserve ?
Mais vous l'avez très bien expliqué, certains philosophes, heureusement pas tous, mais il est vrai, paradoxalement, une bonne partie des philosophes nous disent « méfiez-vous ». Si vous appreniez par exemple à un épicurien que vous êtes tombé amoureux, il vous dirait « oh mon Dieu, mais quelle horreur !» comme si vous lui annonciez que vous aviez une grave maladie, quoi. Le désir, c'est une forme de déchéance du sujet rationnel, hein, qui perd toute maîtrise sur son existence pour s'enticher d'un objet totalement illusoire qui va le faire souffrir irrémédiablement.
Cette souffrance, elle naît aussi de cette espèce d'illusion. On y croit, mais il y aura une désillusion derrière.
Oui, c'est ça. C'est notamment donc les philosophes épicuriens hein, qui disent quand on tombe amoureux, vous voyez, cette idée de tomber, c'est une chute, quoi. Et ça démarre par une hallucination, en fait, le coup de foudre. Et si on y pense, en vérité, un coup de foudre, littéralement, c'est vrai que ça, si on prenait la foudre sur nous, on serait pas bien en forme. Hein. Et ben, c'est un peu ce que disent les épicuriens quand la foudre nous tombe dessus sur le plan amoureux, on y voit plus clair. Et donc, on s'attache à un objet qu'on méconnaît radicalement, on lui prête toutes les vertus du monde, alors qu'en vérité c'est un objet au mieux ordinaire, et peut-être, en fait, en vérité, qui ne mérite pas l'amour qu'on va lui porter.
Dans les philosophes, il y a le fameux Schopenhauer, pas très optimiste, qui dit ceci, « Tant que l'homme sera asservi aux désirs, aux espérances et aux craintes continuelles qu'il fait naître, il ne connaîtra ni le repos, ni le bonheur. » Voilà, donc ouais, c'est au moins assez radical. Le désir, l'espoir, pour lui, ce sont que des chimères.
Oui, c'est une véritable tyrannie qu'Eros exerce sur nos vies, à en croire Schopenhauer, parce que il nous explique qu'en fait le désir, ça provient d'un état de manque. Donc, naissance du désir, je manque, donc je souffre. Mmh. Alors vous allez me dire, oui, mais j'obtiens l'objet du désir, il y a un moment où j'arrête de souffrir. Et Schopenhauer vous dit, bon, en fait, au moment où vous l'obtenez très, très souvent, soit vous êtes déçu, soit vous vous ennuyez, et donc ça crée à nouveau un manque, et voilà ce pendule terrible, votre vie oscille entre la souffrance et l'ennui.
Oui,
non, vraiment, l'amour est une tyrannie qui ne vous permettra en aucune manière de connaître le bonheur.
Alors c'est pas le seul, hein, ça remonte à très loin, Platon aussi, pas mal d'autres philosophes, voyez cette question de l'amour comme l'idée de combler une insuffisance. Ça vient d'où cette idée que dans le fond, on le dit encore aujourd'hui, j'ai trouvé ma moitié par exemple?
Oui, c'est vrai, et c'est un très beau mythe de Platon qui se trouve dans Le Banquet. Alors un peu étonnant, mais Platon nous dit via Aristophane que avant les humains que nous sommes n'avaient pas du tout la même apparence que nous avons aujourd'hui, Julien. C'était des sphères avec quatre bras, quatre jambes, deux têtes, et ils étaient tellement puissants que les dieux ont voulu les punir et ils les ont coupés en deux, ce qui donne notre apparence actuelle. Hein. Mais à partir de cette coupure, qui est la naissance du désir en vérité, et c'est le désir justement qui va affaiblir les humains, chaque moitié n'aura de cesse que de vouloir chercher sa moitié perdue. Dans ce mythe de Platon, il y a effectivement la naissance de ce concept d'âme sœur, de moitié perdue. Il y a cette idée que ce que nous cherchons dans le désir, c'est ce qui nous manque à nous-mêmes pour être enfin nous-mêmes.
C'est intéressant parce que ça reste encore très prégnant aujourd'hui, cette vision. Enfin, il y a deux sortes de visions. Il y a la vision de la part manquante, de la moitié que l'on trouve par les hasards de la vie. Puis il y a d'autres qui disent, bah non, en fait, c'est une rencontre de l'altérité, de l'ailleurs, du mystère. On trouve quelqu'un d'autre et c'est ça qui nous comble.
Et oui, et finalement, c'est vrai. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire que c'est par exemple quelqu'un comme Lévinas qui va dire il y a rencontre que à partir du moment où il y a altérité, sinon on est dans un faux duo où on rejoue un monologue qu'on a peut-être d'ailleurs joué avec d'autres personnes avant. Ce qui est beau dans l'expérience amoureuse, c'est le moment où la rencontre d'autrui survient comme une effraction dans ma vie. Elle est ce que je n'avais pas prévu, elle est ce que je ne peux pas assimiler, ce que je ne pouvais pas anticiper et qui vient faire éclater les frontières de mon moi tel que je le définissais, et je m'ouvre à autre chose qui m'emporte pour le meilleur ou pour le pire.
Vous utilisez le terme expérience amoureuse. Qu'est-ce que vous mettez exactement là derrière? C'est quel moment de la relation?
Dans le livre, je parle effectivement du désir amoureux, pour pas simplement utiliser le mot de passion qui est quand même très connoté. Dans le mot de passion, il y a cette étymologie grecque de subir, et il y a donc toute la désapprobation qu'on pourrait faire que certains ont fait porter à l'expérience amoureuse, voilà, comme quelque chose de toxique, de négatif. Et moi, je préfère parler de désir pour montrer la part d'activité, la part de positivité qui peut y avoir dans l'expérience amoureuse.
Si on revient à la question des philosophes, dont certains, on l'a vu, sont assez réticents, voire très critiques sur cette notion de désir amoureux, vous vous dites, oui, mais en gros, il faut voir leur vie, hein, c'est tous des frustrés et des ascètes. C'est ça, en gros?
Oui. Bah, en fait, ce que je dis, c'est que si on examine la vie des philosophes qui nous parlent d'amour, par exemple, Kant était un célibataire endurci. Lucrèce, le philosophe épicurien qui a violemment condamné la passion amoureuse, on raconte qu'il serait mort de folie après avoir absorbé un filtre d'amour. Kierkegaard a quitté l'amour de sa vie le lendemain de ses fiançailles. Et Nietzsche, qui a mené une existence de solitude après des échecs amoureux, ne parlons pas de Socrate, qui a refusé les avances du plus bel homme d'Athènes. Et je me demande, si par exemple je voulais faire fructifier mon argent, moi, est-ce que j'irais demander à des banquiers qui ont dilapidé leur fortune, peut-être. Donc vous voyez, est-ce qu'on va vraiment demander comment agir et aimer à des gens qui manifestement n'ont pas su véritablement s'engager dans l'amour avec succès?
Marianne Chaillon, vous le dites, vous ne partagez pas leur avis, ni leur argent. Vous êtes pour, vous êtes une passionnée de la passion. Qu'est-ce qui vous fait pencher de ce côté-là? Est-ce que c'est votre vécu, c'est votre envie de vivre des choses formidables?
Oui, c'est un vécu, mais un vécu lucide. C'est-à-dire que je fais pas une promotion naïve du désir amoureux. Je suis pas en train de dire, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est que du bonheur, pour reprendre cette phrase qu'on entend parfois. Non, bien sûr. Dans le livre, j'essaye d'expliquer que quand on condamne l'amour, c'est pour des raisons comme son incomplétude, comme la part de souffrance inévitable qu'il nous conduit à expérimenter, comme son caractère éphémère. Et ce que je dis, c'est, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de la vie, là, qui est à la fois éphémère, qui est à la fois douloureuse, qui est à la fois insatisfaisante, toujours, nécessairement? Et donc, je me demande si, en fait, vouloir rejeter l'amour, vouloir extraire de nous notre vie désirante, c'est pas tout simplement vouloir extraire de nous l'élan vital tout court. Et donc, j'essaye de déconstruire une image un peu naïve du bonheur, cette image des contes, ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants, tout est bien qui finit bien, dans un ciel bleu sans nuages. Non, bien sûr, ne nous voilons pas la face. Aimer, c'est aussi souffrir. Mais qu'est-ce que cela fait vivre en même temps que d'aimer? Oui, c'est une expérience de souffrance, mais c'est une expérience de joie intense. Et voilà, j'essaye de dire qu'on aurait bien tort de s'en priver, parce qu'il me semble que s'en priver serait se priver de vivre.
Pour certaines personnes, le désir amoureux, c'est une forme d'appropriation, une sorte de possession de l'autre. Que pensez-vous de ça?
Oui, je peux très bien comprendre, parce qu'on a tellement d'exemples malheureusement, par exemple, je cite l'opéra Carmen dans mon ouvrage, où Don José, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il veut absolument posséder Carmen, en finit à ce geste absolument atroce de féminicide. Mais je ne crois pas du tout qu'il faille imputer au désir amoureux les les perversions et les actes absolument atroces que certains sujets amoureux sont amenés à commettre. C'est-à-dire que si Don José ne parvient pas à accepter la règle du jeu du désir, celui qu'il faut blâmer, ce n'est pas le désir, c'est celui qui ne comprend pas la règle. Et la règle du désir, c'est d'accepter que l'autre ne nous appartient pas, et c'est justement, en fait, on tombe amoureux d'une liberté. Et il faut accepter cette règle du jeu, que l'autre nous échappera toujours, un peu, et que voilà. Et donc, ce n'est pas le désir qu'il faut blâmer, c'est la mauvaise compréhension du désir, c'est le refus des règles du jeu et de la vie, et du désir, qui conduit à ces tentations absolument terribles.
Il y a quelque chose qu'on entend souvent dans des couples, c'est le mot jalousie, mais qui est souvent vendu comme quelque chose de positif. Ah, j'aime bien quand mon homme est jaloux de moi, ou inversement, quand ma femme l'est de moi. Comme si la jalousie faisait partie intégrante de ce sentiment amoureux. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est pas une manière aussi d'enfermer l'autre?
Oui, alors je peux comprendre. J'évoque un roman qui s'appelle Belle du Seigneur, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, se passe pour une bonne partie à Genève. Et dans ce couple qui devient, bon voilà, un couple presque conjugal. Hein, ils sont d'abord amants, mais ensuite ils s'installent ensemble. Et puis au bout d'un moment, la passion s'éteint un peu. Et pour la faire rejaillir, Solal demande à Ariane si avant lui, elle a été amoureuse. Et donc, il se crée la figure d'un rival et il devient jaloux. Et la jalousie est, à ce moment-là, une forme de moteur qui réinjecte du désir dans un couple où le désir s'étiolait. Alors, tant que la jalousie exprime la reconnaissance, que l'autre m'échappe un peu, que le désir de l'autre pour moi est toujours, n'est jamais acquis, cette jalousie-là, effectivement, elle est acceptable, elle est positive, elle peut faire, elle peut entretenir la flamme, comme la reconnaissance lucide que l'autre m'échappe. Si la jalousie devient pathologique et devient volonté de s'approprier l'autre, alors là, effectivement, ça devient dangereux et c'est pas du tout une affaire de désir. Du coup, c'est vraiment une affaire de négation de l'altérité qui peut conduire à des tragédies.
Nous parlons ce matin du désir amoureux avec vous, Marianne Chaillon. Allez, on va écouter peut-être une des voix les plus sexy de l'histoire de la musique.
Wise men say only fools run. So it goes.
la voix incomparable d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love with You. Elle vous plaît cette chanson, Marianne Chaillon?
Ah oui, vous m'avez offert un grand plaisir.
C'est comme une voix absolument incroyable. Nous parlons donc d'amour avec vous, de ce désir amoureux. Bah, on a eu ce titre-là d'Elvis Presley, mais dans le fond, ouais. On aurait pu piocher. Il y en a tellement qui parlent d'amour. Est-ce que, il y a les chansons, les films, les séries, est-ce que c'est pas un des problèmes que l'amour soit autant un moteur des œuvres culturelles? Est-ce qu'on se fait pas trop de films parce qu'on voit ce qui se passe à l'écran, puis après on voit ce qui se passe dans la vraie vie et c'est pas toujours la même chose?
C'est pas faux. C'est vrai que beaucoup de films se terminent par un happy ending et du coup nous laissent penser que un amour réussi serait un amour qui termine sur une note heureuse. Mais dans le livre, je dis que à ce final des films, ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. Moi, je préfère une maxime beaucoup plus triste, beaucoup plus lugubre, mais plus réaliste qu'on trouve chez Pascal et qui est la fin est sanglante. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Alors, il parle de la vie. Hein, c'est-à-dire, il vous dit ça finit mal. Notre vie finit mal. Même si la comédie est belle avant cette fin terrible. Et je préfère ça parce que ça me paraît plus réaliste. Cette maxime de Pascal n'est pas totalement pessimiste. Elle nous dit la route peut être belle et même nous enjoint de profiter encore plus de la route, mais sans s'illusionner sur le fait que ça finira bien. Et effectivement, il y a quelque chose de toxique dans ces films. C'est que au regard de ces films, toute personne qui souffrirait dans son couple, toute personne qui dans le couple eh bien connaîtrait une fin, se dirait eh bien j'ai échoué. Je trouve ça terrible parce que cette image donc que promeuvent les films et certains romans de l'amour renvoie au lecteur et au spectateur que nous sommes l'idée que nous serions en échec. Ce que j'essaye de montrer, c'est que le désir, comme la vie, est pris dans un tourbillon de la vie et que c'est pas à notre état civil, par exemple, hein, sommes-nous mariés, vivons-nous à deux, ne dormons-nous pas seuls le soir, qu'on peut juger d'une vie amoureuse réussie. C'est plutôt à son intensité. Mais pour revenir à la chanson d'Elvis, il y a deux choses très très belles dans cette chanson que vous nous avez fait écouter. Elvis dit quand même « I can't help », je peux pas m'en empêcher. Certaines choses sont faites pour arriver, hein. Je traduis dans une traduction approximative. Il y a vraiment cette idée que l'amour nous tombe dessus comme une fatalité. Ça nous tombe dessus. Et en même temps, je sais pas si vous aurez senti le paradoxe de quelque chose d'irrépressible, ça devait arriver, il y a ça dans l'amour, hein. Ça devait arriver et en même temps on sent aussi une extrême contingence, c'est-à-dire oh, mon Dieu, mais quelles étaient les probabilités que nous nous rencontrions? Il y a ce paradoxe qui traverse la rencontre amoureuse qui est très beau, hein. C'est une contingence au goût de nécessité. Et puis il y a aussi autre chose dans la chanson d'Elvis, si vous me permettez d'en parler encore, mais qui est voilà, comme quoi la culture populaire hein, nous apprend beaucoup. Il lui dit « Prends ma vie, voilà, prends-la tout entière ». Et je crois qu'il y a ça aussi dans l'expérience de l'amour, il y a un don de soi à l'autre, il y a une espèce de suggestion immédiate, et encore une fois paradoxale, puisque c'est une suggestion qui appelle en retour à l'assujettissement de celui auquel on s'abandonne. On aimerait que l'autre se dépose sa liberté devant nous comme nous déposons devant lui la nôtre. Hein, voilà. Donc vous voyez, la chanson d'Elvis était pleine de sagesse.
On voit en vous la philosophe qui aime décortiquer la pop culture. Est-ce que ce qui se joue dans le sentiment amoureux, c'est lorsque quelqu'un m'aime, c'est aussi une manière de dire bah, tu existes, tu es vivant et tu es singulier, tu es peut-être différent des autres, on te sort de la foule, pour moi tu es quelqu'un de singulier.
Vous voulez dire, est-ce que le fait d'être aimé par quelqu'un, l'élection que quelqu'un fait de nous, au fond, nous justifie, c'est ça?
Exactement.
Oui, tout à fait. Être aimé, ça, c'est une reconnaissance effectivement merveilleuse. Pour autant, d'ailleurs, qu'on aime soi-même en retour. Sinon, ça peut être terrible.
La question d'aimer en retour, elle se joue parfois dans ce qu'on peut dire, les mots qu'on peut utiliser pour exprimer notre amour. Le fameux « je t'aime », qui est une sorte d'affirmation. Il y a plein de gens qui disent « oui, c'est pas une affirmation, c'est une question ». C'est-à-dire, quand je te dis « je t'aime », j'ai envie que tu me dises « moi aussi, je t'aime aussi ».
Oui, là je pense que vous me cherchez puisque vous venez de rappeler mon goût pour la culture populaire. Et il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Jacques Goldman que vous connaîtrez et qui a écrit une très belle chanson, Sache que je, et qui nous dit, il y a une question dans Je t'aime qui demande, m'aimes-tu, toi? C'est vrai que voilà, ces trois mots-là n'affirment pas, hein, dit Jean-Jacques Goldman, je suis d'accord. Dans Je t'aime, il y a effectivement la question, voilà, est-ce que toi tu m'aimes ? Et il y a cette question un peu, ce vertige du sujet amoureux, qui a toujours besoin d'être rassuré, comme s'il savait que le don de l'amour était un don qui ne peut pas s'expliquer, et c'est terrifiant. On n'a pas parlé de l'action, de savoir est-ce qu'il existe des raisons d'aimer, est-ce que c'est bien rationnel cette affaire-là. Et les sites de rencontres, par exemple, prospèrent sur cette idée qu'il y aurait des critères qui justifient la naissance de l'état amoureux. Et en fait, si vous pensez à la question « je t'aime » ou à la question « pourquoi tu m'aimes », vous voyez bien qu'il n'y a pas véritablement de réponse, et on le sent bien qu'il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qu'on aime ? Parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu me fais rire, mais il y a tant d'autres personnes qui sont beaux ou belles et qui nous font rire. Alors pourquoi toi ? Cette question n'a pas véritablement de réponse. D'ailleurs, Montaigne a cette formule magnifique, il dit « parce que c'est toi, parce que c'est moi ». C'est une manière de déjouer le fait qu'il n'y a pas de réponse véritable. Et pourtant, on ne cesse de poser cette question. Pourquoi tu m'aimes ? Parce que, au fond, tout sujet amoureux est pris du vertige en sachant que il a besoin de cet amour qui lui a été donné sans raison et qui pourrait du coup tout aussi bien disparaître.
Une des raisons qui est donnée parfois pour l'amour, et c'est celle que donne Claire Marin, la philosophe que vous connaissez peut-être, qui était venue dans Tribu, elle dit « ben, pour elle, l'amour ou aimer sauve de l'absurdité de l'existence ». Est-ce que vous souscrivez ?
Alors, il faudrait que j'ai tout le contexte de cette jolie phrase. L'amour sauve de l'absurdité de l'existence.
Oui, parce qu'elle dit on a souvent le sentiment d'être là par hasard, et grâce à l'amour, dans le fond, on est là pour quelqu'un.
Oui, hélas, ponctuellement, souvent. Et j'ai envie de dire que dans le mot absurde, vous savez, l'étymologie du mot absurde, c'est ce qui ne rend aucun son. Et il y a quand même quelque chose, j'étais juste en train de le dire, c'est peut-être pour ça que j'y pense, mais il y a dans l'expérience de l'amour aussi, cette expérience très douloureuse de ne pas avoir de réponse. Donc d'une certaine manière, de ne pas avoir, de n'avoir aucun son en retour. Quand, justement, cette question, pourquoi tu m'aimes ? Il y a quelque chose d'absurde aussi dans l'expérience de l'amour. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Et en même temps, je comprends très bien ce qu'elle dit en disant que c'est finalement un absurde qui provisoirement suspend l'absurde de l'existence puisqu'il nous donne une raison de vivre.
Marianne Chaillon, vous citiez un des plus grands philosophes du XXe siècle, Jean-Jacques Goldman. On peut en citer un autre, Daniel Balavoine, qui chantait « Aimer est plus fort que d'être aimé ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, je ne sais pas si je suis d'accord, mais je cite dans mon livre un autre philosophe que Balavoine, qui s'appelle Descartes, et qui fait la différence entre l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. Alors l'amour de concupiscence, c'est quand je veux jouir de l'autre, voilà, c'est un amour qui serait plutôt centré sur soi, et l'amour de bienveillance, c'est l'amour qui, au fond, accorde la primeur au bonheur de l'autre. C'est par exemple Cyrano de Bergerac, qui fait passer le bonheur de Roxane avant le sien propre. Et donc, de ce point de vue, et c'est ce que je dis au fond aussi dans le livre, c'est que pour nous prémunir des blessures que le désir pourrait nous infliger, est-ce qu'il ne faut pas cultiver toujours aussi en nous, pour l'autre, un amour de bienveillance qui nous permettra, si le jour vient, quand le jour viendra, de la rupture, du départ de l'autre, etc., de se guérir de ce qui pourrait blesser notre amour de concupiscence, mais que notre amour de bienveillance saura accepter, et voilà, et si tu préfères t'en aller, eh bien, si ton bonheur est ailleurs, et c'est encore Jean-Jacques Goldman qui le dit dans le Confidentiel, voilà, faut pas regretter tout ce qu'on a fait, c'est déjà gagné. Voilà.
Très belle chanson Confidentielle que j'ai réécoutée en lisant ce livre d'ailleurs de Jean-Jacques Goldman, enfin pas ce livre de vous, mais Marianne Chaillon. Vous dites, voilà, moi je défends la passion, c'est ça qui est beau, on souffre, mais c'est éphémère, mais c'est ça la vie. Est-ce que quand même, en vieillissant, on devient un peu moins romantique dans le sens 19e du siècle ? Est-ce qu'on devient un peu plus Tolstoï et un peu moins Dostoïevski ?
Je pense que c'est vraiment pas une question d'âge, mais de force, parce que il en faut quand même de la force pour s'inscrire dans l'existence en faisant le choix du désir. Ce choix du désir, il a un prix, clairement, parce que le désir, ça vient souffler la tranquillité, les petits refuges qu'on peut se construire, et répondre au désir quand il frappe à la porte, c'est quelque chose de, voilà, qui nécessite beaucoup de force et de courage, et je peux comprendre que parfois, on préfère le réconfort douillet, le calme plat d'un lac aux vagues tumultueuses d'un océan déchaîné. Je peux le comprendre, mais je pense pas que ça soit une affaire d'âge.
Bien, on va rester sur cette belle image. Merci beaucoup Marie-Anne Chaillon d'être venue nous voir ce matin, vous enseignez la philosophie dans un lycée. C'est du côté de Marseille et votre livre s'appelle « À la folie, passionnément ». Il est paru aux éditions Équateur. Bonne suite de journée du côté de Aix.
Merci.
Ce matin à la technique, Jorel Ayer et donc nos collègues de France Bleu Provence qui vous ont accueillis dans leur studio du côté d'Aix-en-Provence. Demain, nous parlerons de toute autre chose, nous parlerons de la vie et du vécu des camionneurs et des camionneuses. Mais là, tout de suite, les décodeurs qui reçoivent toute cette semaine l'aventurier des sports extrêmes, Antoine Girard. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite de journée à l'écoute de la première.
Tribu, Julien Magnier.